Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Chloé Beauvallet, bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-moi votre pire échange, votre pire expérience en matière de relations clients. Un jour, vous avez fait confiance à quelqu'un, à une marque, à une entreprise, et puis bah, finalement, vous avez été un peu déçu. Ça arrive, ça arrive.
Ça arrive, mais très rarement, bien sûr. Le service client qui ne sert à rien. Une fois où j'avais un micro-ondes qui ne fonctionnait pas, j'ai appelé la marque. On m'a expliqué qu'au téléphone, on ne pouvait rien faire pour moi, qu'il fallait que j'aille en magasin. Je suis arrivée en magasin, on m'a expliqué qu'on ne pouvait rien faire pour moi en magasin parce que je l'avais acheté sur le web. Et bref, on est ballotté entre plusieurs services clients, mais au final, on n'a aucune solution.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Chloé Beauvallet, DG en France de Citel. Citel, c'est une société qui entend réenchanter la relation client, justement, pas comme la fâcheuse expérience que vous venez de décrire, avec différents ingrédients dont nous allons parler. Est-ce que le pire écueil, Chloé Beauvallet, aujourd'hui, en 2021, et dans l'absolu, peut-être d'ailleurs, dans la relation client, c'est de n'avoir personne au bout du fil et personne à qui parler et à confier ses désagréments?
Je pense que pour un client, pour un consommateur, pour un citoyen, la marque ou l'entreprise ou le service du gouvernement, peu importe, c'est toujours une entité à laquelle on veut parler, dont on utilise les services, dont on utilise les interfaces. Et finalement, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière la machine et quelqu'un derrière l'entité. Donc oui, je pense que le pire, c'est rien.
Et le pire, ça peut être aussi des mauvaises réponses. On reparlera des bots et du digital tout à l'heure. Chloé Beauvallet, vous avez travaillé chez Canal+, PMU, BNP Paribas, donc des sociétés finalement très différentes, mais toujours sur cette même matière. Alors pardonnez-moi si je me trompe, mais la relation client, ce n'est pas quelque chose de d'inné. On ne se dit pas, tiens, je vais être spécialiste de la relation client. Donc bon an, mal an, comment est-ce que vous êtes devenu spécialiste sur cette thématique qui est très intéressante?
Effectivement, à l'école, quand j'étais petite, je ne me disais pas, quand je serai grande, je travaillerai dans la relation client. J'ai découvert ça un peu par hasard, finalement. J'ai fait plutôt des études littéraires. Je suis partie en me disant que je serais prof d'espagnol. Et puis, non. J'ai découvert la relation client par hasard quand j'étais au sein du groupe Canal+, sur plutôt des sujets de fidélisation. Et puis, à un moment, j'ai passé un entretien pour aller dans un truc qui s'appelait le centre d'accueil téléphonique ou la direction des abonnements. Et en fait, j'ai trouvé merveilleux cette humilité du métier qui fait que les marques peuvent inventer toutes les stratégies qu'elles veulent. À un moment, on passe 3 minutes au téléphone avec quelqu'un et on raccroche en se disant « Oh, ils sont vraiment top chez machin » ou « Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls chez machin ?» Et ça ne tient qu'à la capacité du conseiller à incarner la marque. Et je trouve ça magique.
Alors, est-ce que Chloé Beauvallet, vous venez de parler du téléphone, est-ce que paradoxalement, le téléphone, parce qu'à titre personnel, les meilleures expériences de relations clients, je les ai eues au téléphone encore en 2021, est-ce que paradoxalement, à l'heure du digital, des bots, de l'intelligence artificielle et de toutes ces fenêtres de discussion instantanée qu'on a sur les sites internet, est-ce que quand on a quelqu'un, quand on a une vraie personne au téléphone qui a un prénom, qui a un nom, qui se présente et que ça se passe bien, est-ce que ce n'est pas finalement, aujourd'hui encore, la meilleure forme de relations clients?
En fait, ça dépend du besoin. Si vous avez vraiment besoin à 3 heures du matin parce que la machine vient d'avaler ou on vient de vous voler votre carte bancaire, vous avez besoin de faire opposition, vous vous en fichez un peu finalement de parler à un humain. Ce que vous voulez, c'est faire opposition sur votre carte bancaire pour que personne puisse l'utiliser. Donc, ça dépend de l'usage, ça dépend du sens. J'ai un souvenir un peu rigolo, mais je me souviens que quand le fisc avait demandé à Canal+, pardon, le CSA avait demandé à Canal+ d'exiger des abonnés qu'ils puissent dire s'ils souhaitaient ou non accéder aux films de catégorie 5. Inutile de vous dire qu'un certain nombre d'abonnés n'avaient pas du tout envie d'expliquer à un humain et à une voix qui existe réellement qu'ils avaient envie de regarder les films X. Donc, quelquefois, on n'a pas du tout envie de parler à un humain et quelquefois, en revanche, on a vraiment besoin de la prise en charge de quelqu'un avec de l'empathie, de l'accompagnement. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas un bon média. Il y a un média adapté à un besoin.
La crise Covid, Chloé Beauvallet, ça a dû faire exploser un grand nombre de sollicitations, que ce soit par téléphone ou sur Internet. On avait besoin de parler à quelqu'un ou à un robot, j'imagine, et beaucoup plus que d'habitude.
Oui, plus que jamais. Alors, quelquefois, moins parce qu'il y avait moins de besoins. C'est-à-dire que typiquement, on a eu sur de la, je peux vous dire, des télécoms dans le B2B, ben, il y avait des entreprises qui avaient fermé leurs locaux et qui n'avaient pas forcément besoin d'installer la fibre à ce moment-là dans leurs locaux. Donc, certaines fois, il y avait moins de flux. Et puis, à l'inverse, par exemple, dans le retail, le commerce est passé beaucoup plus au e-commerce. Donc, il y a eu beaucoup plus besoin de sollicitations. Et puis, nous, on opère le numéro vert du ministère de la Santé. Donc, là, évidemment, énormément besoin de réponses. Et de façon très différente, et typiquement, effectivement, ça peut être un robot. Quand vous avez une prise de parole du ministre de la Santé, du Premier ministre ou du président de la République, il y a énormément de demandes et de besoins et de sollicitations. Si à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir l'adresse du centre de vaccination ou du laboratoire pour faire un test PCR le plus proche de chez vous, ou la réponse à une question sur l'heure du couvre-feu ou les motifs de déplacement autorisés, un robot qui articule bien, qui vous envoie une confirmation par SMS, bah, c'est super.
Le robot, il peut réfléchir à des horaires, à des chiffres, à des choses très pragmatiques, mais à l'inverse, sur les côtés émotionnels, sur l'empathie, ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est beaucoup moins efficace. On va parler un peu de Citel quand même, Chloé Bolvalet. Qu'est-ce que Citel a de particulier par rapport à ses concurrents?
C'est une très très belle success story française. Ce sont des copains de Subdeco qui ont inventé cette entreprise il y a 27 ans et ils sont toujours aujourd'hui à la tête de l'entreprise. Cet ADN entrepreneurial est toujours très présent et pourtant aujourd'hui c'est 160 000 personnes dans presque 50 pays. Donc c'est vraiment une dimension internationale extraordinaire, mais toujours adossée à ces deux fondateurs français, à un actionnariat de la famille Mullier qui est français aussi. Donc un ADN entrepreneurial français dans une entreprise internationale et une vraie un vrai engagement autour de l'innovation. Évidemment, notre métier, c'est avant tout de mettre des talents, des hommes et des femmes, au bout du téléphone, au bout du chat, au bout de la messagerie instantanée, derrière finalement toutes les interfaces d'une marque pour répondre aux sollicitations des clients. Mais c'est aussi justement de penser des dispositifs de montée en compétences, donc de formation, d'innovation technologique, de digital, de data, pour pouvoir délivrer le service qui soit le plus efficace, performant possible pour les marques, mais surtout pour les consommateurs finaux.
Et donc en matière de relations clients, Chloé Beauvallet, vous avez évoqué le terme de talent. Qui on recrute en ce moment? De quel profil on a besoin pour que cette relation client, elle se passe bien?
Alors, depuis quelques années déjà, on a fait un pivot en allant de plus en plus chercher avant tout du savoir-être. Ce qu'il faut, c'est de la curiosité pour écouter réellement ce que le client ou le citoyen a à vous raconter. C'est du bon sens pour le comprendre et l'interpréter. Et c'est de l'empathie pour être capable, non pas de prendre en charge toutes les émotions des autres parce que ce serait trop lourd à porter, mais en tout cas de pouvoir les comprendre et les prendre en charge. Et donc, le vrai sujet, c'est ça. Ensuite, la technique, honnêtement, elle s'apprend. À nous de mettre en œuvre avec nos partenaires les dispositifs de formation qui permettent cette compétence technique et ce savoir-faire en plus du savoir-être. Donc, c'est finalement des profils extrêmement différents. Et aujourd'hui, les nouvelles modalités de travail avec le télétravail permettent aussi d'aller chercher peut-être d'autres profils qui n'accédaient pas à ces métiers il y a quelque temps.
Et ce savoir-faire que vous décrivez, Chloé Beauvallet, eh ben, on ne peut pas dire ça à tous les secteurs, mais en France, on est assez bon sur ce secteur de la relation client. Donc, qu'est-ce que ça, je ne sais pas si ça révèle, enfin, selon vous, qu'est-ce que ça révèle de notre tempérament, de nos ambitions françaises? Pourquoi, qu'est-ce qui explique que globalement, on soit à la pointe,
Un
finalement,
vrai
sur ce sujet?
cocorico, ouais, un vrai cocorico. On est deux Français dans le top 3 mondial, donc on peut être fier d'effectivement cette performance française. Bah, je pense qu'il y a effectivement un savoir-faire qui vient d'un niveau d'exigence. On dit toujours des Français qui sont râleurs, mais les râleurs, c'est surtout qu'ils s'expriment. Donc quand on est capable d'entendre cette expression et de la traiter, et c'est vrai qu'on a cette image d'Épinal de service client où on n'aurait que de la réclamation. La réclamation, c'est tout petit dans nos volumes de contact. Quand vous déménagez et que vous voulez faire rétablir l'électricité dans le nouveau logement, ben vous râlez pas en fait, hein. Vous demandez un service, on vous le donne et vous êtes ravis parce que ça fonctionne extraordinairement bien. Donc, il y a plein de possibilités effectivement qui font que on a une capacité probablement à plus prendre en charge ce genre de service et à avoir une capacité à le délivrer avec un niveau d'exigence qui est très processé, qui est très normé, mais avec un degré d'empathie qui est probablement assez français, ouais.
Ouais, comme quoi les râleurs, c'est un défaut qui peut se transformer en qualité. Vous venez d'en faire la démonstration. Dans un portrait qui vous est consacré dans les Échos, je crois, on lit notamment que vous êtes l'une des seules femmes qui est à un poste de direction dans ce secteur. Est-ce que vous en êtes fière? Vous avez dit, on peut être fier de nos capacités, de nos talents sur ce secteur de la relation client. Est-ce que vous êtes fière d'être une femme à la tête d'un des géants du secteur?
En fait, je suis surtout navrée d'être la seule. C'est un métier dans lequel on ne manque pas de femmes. Le secteur en France, hein, c'est 71% de femmes. Hein, donc, on a des femmes parmi nos collaborateurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, oui, je suis fière parce qu'en fait, j'ai un peu découvert ces dernières années une notion d'exemplarité qui m'avait échappé, j'avoue. Mais que quand on est une femme à ce genre de fonction, eh bien oui, on montre que c'est possible. Et je pense que ça doit et ça peut donner envie à d'autres femmes de franchir le plafond de verre et puis de prendre ses responsabilités sans imaginer qu'il faut tout abandonner pour ça et que c'est horriblement dur. On a toujours cette espèce d'anxiété sur notre légitimité à prendre des postes à responsabilité. Non, il n'y a pas de raison. Donc en tout cas, j'assume aujourd'hui une forme de fierté sur le fait que je prends la parole au nom de ces 71% de femmes qui ont le droit d'être 71% aussi à la tête de nos entreprises.
Chloé Beauvallet, dernière question. Vous êtes également une passionnée d'art contemporain. Je crois que vous avez d'ailleurs mandaté un artiste pour réaliser une fresque dans vos bureaux parisiens. Est-ce que l'art et l'entreprise, ce sont deux choses qui se rejoignent, où il y a des passerelles? Est-ce que l'art est important pour l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est importante pour l'art? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça vous qui êtes une passionnée d'art contemporain, je crois?
J'étais hier à Rouen et il y a des ateliers de coaching dans la gestion des appels difficiles qui étaient gérés par une de nos collaboratrices qui fait beaucoup de théâtre. Hein, donc il y a plein de formes d'art. On a en ce moment, au-delà de la réalisation d'une fresque effectivement au siège à Paris, on a aussi à Romainville, en proximité d'Île-de-France, un dialogue avec une association qui s'appelle Jeune Création, dans laquelle on est plutôt dans un dialogue entre les artistes et nos métiers. Et je pense que le sujet, c'est surtout de faire en sorte de donner du sens. Moi, je suis profondément convaincue que notre métier, c'est un métier de conversation, d'échange, de liens, de médiation dans une société qui en manque cruellement et qui a quelques démons qui s'éveillent actuellement. Et donc, le but, c'est aussi de jouer notre rôle et de trouver cette capacité à tisser des passerelles et à porter chaque jour un regard un peu nouveau. Les métiers de la relation client sont des métiers routiniers sur lesquels on a tous les jours des dizaines et des dizaines d'appels, de mails, de courriers, de chats, etc., d'avis Google, peu importe. Et donc, si on a cette capacité de temps en temps, enfin régulièrement, à prendre des respiration, bah d'abord on sera plus impliqué, plus engagé dans chacune des interactions, mais on sera aussi capable de porter un regard critique sur ce qu'on fait, de faire des pas de côté, d'inventer des choses nouvelles. Et je suis convaincue que la façon dont on fera de l'expérience client demain n'aura probablement pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, si ce n'est d'y mettre du cœur et d'avoir envie de tisser ces conversations et ces liens entre les marques et les consommateurs.
Chloé Beauvallet, donc DG en France de Citel, merci pour ce discours infiniment enthousiaste sur la relation client. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.
Merci infiniment pour votre intérêt. Bonne journée.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.